Qu'est-ce que l'histoire ? C'est un voyage dans le passé en enfilant la peau des autres pour se mettre à leur place.
Notre témoin Patrice Chagnard, réalisateur de « Nous, le peuple ».
Salutations à vous, messieurs les députés, merci pour votre présence. On a essayé donc avec nos idées, notre expertise, notre expérience du quotidien d'essayer d'établir donc déjà un constat de la société telle qu'elle est pour pouvoir arriver à, à une révision constitutionnelle appropriée. Vas-y, Fanta.
Bonjour. Messieurs, mesdames, nos représentants. Moi, je parle au nom de nous les habitants de Villeneuve-Saint-Georges et d'ailleurs. Nous, les personnes qui habitent dans les quartiers prioritaires et qui n'ont plus de priorité. Nous, les personnes qui donnons nos voix et qui n'ont plus de pouvoir une fois que ces voix sont obtenues.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Nous, le peuple, c'est un film signé Claudine Bory et Patrice Chagnard dans cet ordre. Avec Claudine Bory, Patrice Chagnard a imaginé de filmer trois groupes de travail de résidents libres ou forcés de la région parisienne qui s'étaient mis en tête l'an 2018 de devenir sinon le peuple constituant, du moins des ateliers constituants, de rédiger une nouvelle constitution. Bonjour à vous, Patrice Chagnard. Ce film est sorti sur les écrans depuis mercredi. Il est assez anticipateur parce que vous l'avez tourné avant le mouvement des Gilets jaunes.
Absolument.
Vous l'avez tourné avant même que Emmanuel Macron tente de lancer une première réforme de la Constitution. C'était enfin, début 2018.
Disons que cette tentative d'Emmanuel Macron est arrivé pendant le tournage, voilà. Et donc du coup, il nous a rattrapés, il nous a rejoints, et on a pu construire une dramaturgie, finalement, autour de ce projet.
Quel flair ! Et puis peut-être maintenant, Emmanuel Macron, ayant vu le film, imagine, c'est même certain, de faire reprendre à l'Assemblée nationale un débat sur la réforme constitutionnelle, si le calendrier parlementaire le permet. Nous, le peuple, alors nous, on va essayer de raconter un peu quelle a été votre vie féconde de cinéaste depuis un demi-siècle, Patrice Chagnard. Quand on disait « nous » dans votre milieu ?
Eh ben, c'était dans notre milieu qu'on disait « nous ». Et ce milieu, c'était le milieu des gens bien, des gens éduqués, non pas des gens riches, mais des gens qui ont des valeurs, qui sont du bon côté de la société, qui sont éduqués, tout ça, et qui ne se confondent pas avec les autres, c'est-à-dire ceux du peuple, les ouvriers à l'époque.
Mais sans caméra, vous seriez allé rencontrer les ouvriers ?
Je ne sais pas si j'aurais pu le faire. Je pense que le cinéma, d'abord, a été pour moi comme un ballon d'oxygène par rapport au côté un peu étouffant du milieu bourgeois dans lequel j'avais été élevé. Bourgeois, catholique, très... des gens bien, quoi, voilà, sous tout rapport. Et fallait, moi, je ressentais je ressentais dans ce nous, genre de notre milieu, quelque chose comme une imposture. Et très tôt, j'ai ressenti ça. Et le cinéma, pour moi, ça a été la révélation des autres. La révélation qu'il y avait des autres. Et qu'ils étaient vivants et qu'ils avaient leur richesse, leur culture, leur...
Parcours fécond, une rétrospective au centre Georges Pompidou, c'était en 2017, de vos films avec Claudine Bory. Et vous aviez eu l'idée à cette époque de mettre en bonus un film que vous avez signé seul, qui est peut-être le premier, 1969.
En tous les cas, un des tout premiers.
Mais vous étiez tout jeune.
Oui, 20 ans.
Ouais. Et vous êtes allé, non loin des Caudins et de Denain, travailleur à... Écoudin, c'était un film centré en principe sur le témoignage des mineurs et des sidérurgistes sur leurs conditions de travail et sur les accidents de travail, mais c'était bien davantage.
Moi j'ai 24 ans. Et depuis l'âge de 14 ans, je travaille ouvrière. Directement dans le fond de la mine. J'ai encore 26 ans à travailler, comme on dit. À moins qu'il m'arrive des pépins... cette histoire-là, que tout peut arriver. Tout le monde sait qu'il va descendre, mais personne ne sait s'il va remonter. Tout le monde l'ignore. Tout peut arriver. Un gros morceau de charbon qui descend et qui vous frappe dans les reins, vous avez les reins cassés, ou la colonne vertébrale, vous êtes fichu.
Allez !
Autre témoin, un colombophile victime d'un accident du travail et qui s'est reconverti dans l'amitié avec les pigeons.
Eh bien, allez !
Un éboulement. Il est parti travailler à 6h, à 7h, bon matin. Je vous dis, la colonne vertébrale est complètement brisée. J'ai resté un an immobilisé.
Allez, viens, vite! Allez, viens, 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 viens! Allez, viens!
Maintenant, j'ai 33 ans. J'ai 33 ans de la fin de l'année. J'avais 17 ans et demi.
C'est son risque du métier.
Il se trouve que je ne vous connaissais pas. Je me souviens précisément, 50 ans après, de cette scène du colombophile. Et puis, réécoutant ces témoignages, nous demandons tous les deux, Patrice Chagnard, qu'est-ce qu'ils sont devenus ?
J'en sais rien. J'en sais rien. Beaucoup d'années après, avec Claudine, j'ai fait ce film à Tourcoing avec des jeunes ouvriers sans travail, parce que aujourd'hui les jeunes ouvriers sont sans travail, voilà. Mais c'est une jeunesse complètement différente de celle que j'avais filmée en 69.
Ce film, il était organisé autour d'une agence de coaching reconnue, oui, par les puissances publiques et qui apprenait aux jeunes ouvriers comment vous devez vous tenir,
voilà,
pour avoir un emploi.
Le savoir-être, ce qu'on appelle aujourd'hui le savoir-être, et qui a remplacé, quelque part, le savoir-faire de leurs ancêtres. Hein. Et ce savoir-être, c'est... En fait, ils sont préparés à l'entretien d'embauche. Et l'entretien d'embauche, c'est une cérémonie d'allégeance. Ça n'est rien d'autre que ça, finalement. C'est une manière de prouver son allégeance aux règles du jeu, sa connaissance des règles du jeu et son allégeance au discours de l'entreprise, aux valeurs de l'entreprise qu'on se doit de partager, même si ça n'est pas les nôtres.
Les règles du jeu, c'était le titre de cet autre film. Aurore Juvenel, qui a préparé cette émission, qui en a vu beaucoup, a eu beaucoup de difficultés néanmoins à trouver dans les films anciens des témoignages qui pouvaient encore passer à la radio, parce que il y a une difficulté qui tient tout simplement à la langue ouvrière populaire de l'époque. L'accent, oui, oui, et la langue.
Oui, oui, c'est vrai.
Simplement,
oui,
à l'époque, on les comprenait peut-être mieux parce qu'on faisait au moins l'effort de les entendre.
Oui, oui. Et ils avaient une langue. Ils avaient une culture et ils avaient une langue. Et c'est ça qui s'est perdu. Ils ont plus. Ils ont plus leur langue. Alors cette langue, il fallait peut-être tendre l'oreille pour l'entendre. Mais elle existait. Et ils avaient leur valeur, ils avaient ce qu'on appelait à l'époque le mouvement ouvrier, c'était pas rien, voilà. Et ce nous-là, qui était le leur, existait réellement et s'est dissous quelque part dans la mondialisation, la pensée dominante.
Juste un mot d'un autre film qui s'appelle Le Camion Rouge. Ce sont les pompiers de Vizy, dans l'Isère, que vous avez accompagnés longuement et discrètement, comme à votre habitude. Je voulais qu'on en dise un mot, parce que nous sommes au temps du Congrès national des pompiers, mmh, dans le Morbihan, et puis au temps d'une grève des pompiers, qui disent on est très fatigué de devoir réparer les fractures, entre guillemets, de la société française.
Ouais, en même temps, moi, c'est ce que j'aimais, c'est qu'ils le fassent, ces petites réparations. C'est parce qu'il y avait qu'eux qui les faisaient. Il y avait plus qu'eux qui les faisaient. C'est-à-dire, bon, voilà, la vieille qui a une fuite dans sa maison et qui sait pas qui appeler pour la réparer. Enfin, le type qui vient de craquer, de faire une déprime parce qu'il est au chômage, etc. D'aller lui, voilà, c'est les pompiers qui viennent, voilà.
Langage d'autrefois.
Chez nous au village, on est à la page, car nous avons fondé une compagnie de pompiers. Ils se présentèrent chez monsieur le maire, qui fit un grand discours pour fêter ce beau jour.
Oui, mais aujourd'hui, sortie de Nous le Peuple, de Claudine Bory et Patrice Chagnard, ici présent. Donc nous sommes à la veille et pendant la première partie du débat sur la réforme constitutionnelle. Vous vous souvenez, certaines mesures survivent encore dans le nouveau projet, la réduction du nombre des parlementaires, l'augmentation de la part du de la proportionnelle, etc. Trois groupes sont constitués dans la région parisienne que vous allez suivre tous les trois.
Oui, pendant 8 mois.
Alors, un groupe de lycéens de Sarcelles.
Oui.
Bah, vous n'en dites pas long.
Des volontaires. Et alors, des volontaires, non, c'est important parce que...
Tous sont des volontaires, mais les lycéens de Sarcelles, on les imaginait punchy, et vous les avez trouvés...
Soumis. Un peu soumis, oui. Mais ça tient au fait qu'ils étaient volontaires. Parce que les volontaires dans une classe, c'est les meilleurs élèves. C'est ceux qui veulent faire la prépa à Sciences Po, c'est ceux qui veulent faire des études de droit, et c'est pas les mauvais élèves. Et dans l'année d'avant, il y avait le même dispositif, mais il y avait une classe entière où il y avait les mauvais élèves, et là ils étaient pas soumis.
Je ne sais pas si vous étiez bon élève ou mauvais élève, j'hésite.
Ah, devinez.
Je ne sais pas.
Bon élève.
Ah, d'accord. Nous.
Il a fallu beaucoup de travail pour rejoindre les autres.
Ah oui, alors comment vous faites pour trouver les gens? Vous dites, on a fait des repérages l'année d'avant. Alors, on va parler des deux autres groupes, mais alors les groupes, vous les avez repérés aussi bien avant, mais c'est plus les mêmes quand vous tournez.
Non, mais c'est comme ça dans le documentaire. Mais en même temps, le repérage nous a permis d'abord de mesurer qu'il y avait un film possible, qu'il y avait un film, voilà, qu'il y avait que la réalité était suffisamment riche et signifiante pour faire la matière d'un film. Et puis, on a pu se déterminer, c'est-à-dire voir ce qui nous intéressait là-dedans, comment on allait le filmer, ce qu'on allait en tirer. Et pouvoir écrire un scénario et trouver un financement.
Et puis, il y a des prédéterminations sociologiques, sans doute, et les rôles sont toujours tenus, même
Absolument.
Si les personnages
Absolument.
Changent. Alors, le deuxième groupe...
Avec quelques surprises.
Le deuxième groupe, c'est les femmes de Villeneuve-Saint-Georges.
Oui.
Hein. Le troisième groupe... Ah, c'est compliqué, ça, de travailler avec eux. C'est des détenus de Fleury-Mérogis.
Oui, et c'est le groupe qui, finalement, est le plus important dans le film, je pense. C'est eux qui sont... D'abord, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on était plus souvent avec eux qu'avec les autres groupes. Peut-être aussi, ils étaient plus disponibles. C'est l'avantage d'être détenu. C'est qu'on n'a rien d'autre à faire que de penser. Et donc, ils apportent vraiment quelque chose qui nous a énormément surpris.
Je ne veux pas dire, mais le décor des trois endroits. Bon, la maison de femmes de Villeneuve-Saint-Georges, elle est bariolée. Les femmes en sont fières. Ouais. Le lycée de Sarcelles, enfin, il est ce qu'il est. Mais tout ça ressemble un peu à Fleury-Mérogis.
Oui.
J'aurais tendance à dire.
Ça nous a frappé. Ça nous a frappé nous-mêmes et c'est pour ça qu'on l'a filmé comme ça, parce que c'est comme ça. Alors, le lycée de Sarcelles, eh ben, c'est pas le lycée Voltaire, c'est pas un lycée parisien, c'est un lycée de banlieue et on y rentre à peu près comme on entre à Fleury-Mérogis, effectivement.
Heureusement, il y a un quatrième lieu qui est à l'horizon parce qu'il s'agit de fournir des munitions, si je puis dire, l'Assemblée nationale où donc a commencé le débat en 2018 sur la réforme constitutionnelle que la garde des Sceaux cadre ainsi.
La séance est reprise. Madame la ministre, vous avez la parole pour répondre aux orateurs et aux oratrices de la discussion générale.
Mesdames les députées, messieurs les députés, vous avez tout à fait la légitimité pour agir en tant que pouvoir constituant. Il n'est pas toujours nécessaire de faire appel au peuple. Bien sûr, le peuple s'est exprimé à plusieurs reprises lorsqu'il s'est agi d'instituer une république. Et là, c'était bien légitime. Les circonstances, dans d'autres moments où nous avons institué des républiques, étaient des circonstances singulières qui exigeaient, me semble-t-il, l'approbation du peuple. Dans le pouvoir dérivé que vous exercez, le pouvoir constituant dérivé, le peuple n'a pas toujours la nécessité de s'exprimer directement. Vous êtes parfaitement légitime en tant que représentant du peuple à vous exprimer dans ce cadre-là.
Bah oui, on n'est pas au début de la quatrième, ni au début de la cinquième, ni nonobstant le point de vue de Jean-Luc Mélenchon, au début de la sixième, peut être constituant, sans même être constitué en assemblée constituante.
Oui, d'accord. C'est la loi, c'est la règle. Mais moi, je note que elle bafouille. Elle bute sur l'expression quand elle dit ça, et je pense qu'inconsciemment, elle sait qu'elle est en train de dire quelque chose d'énorme, et c'est quelque chose d'énorme qu'elle dit. Parce que elle ne dit pas seulement c'est pas la peine de demander que le peuple participe, mais elle dit c'est même pas la peine de demander son approbation. Donc c'est quand même pas rien. Comme exclusion de la parole populaire, ça va assez loin. Or, comme l'idée de la démocratie, c'est que c'est l'expression de la souveraineté du peuple, et que de ce fait, chacun de nous a une part de cette souveraineté et doit être capable de l'exercer, doit être entendu quand il l'exerce. Chacun de nous est légitime à être constituant, et certainement pas. Seulement les députés, certainement pas eux, certainement pas. Mais vous notez quand même ce nous là, ce nous quand même très particulier, parce que c'est un nous qui pour le coup exclut le peuple, alors qu'en face le nous des détenus, le nous des femmes de Villeneuve, le nous des lycéens de Sarcelles, c'est un nous être humain doué de conscience qui inclut tout le monde.
Mais attendez, le nous des détenus, Patrice Chagnard, oui. Quand ils commencent à parler, les uns et les autres communiquent hein, par message vidéo. Les détenus eux-mêmes se disent « Vous croyez qu'on a la légitimité de fabriquer la Constitution puisqu'on est détenu à Fleury Mérogis ?»
Ils s'interrogent sur leur légitimité. Et ça me touche, qu'ils s'interrogent sur leur légitimité. Et ensuite, là on est au début du film, et ensuite tout le film va prouver qu'ils sont légitimes.
Alors dans le film, chez les détenus à Fleury Mérogis, s'affirme une première personnalité, c'est le détenu philosophe. Alors ça, c'est un rôle classique ?
Bah écoutez, au repérage, l'année d'avant, dans un tout autre groupe, il y avait déjà un philosophe. Et ce philosophe, on, dans le scénario qu'on avait écrit, on lui donnait énormément d'importance. Et les commissions devant lesquelles on est passé pour financer notre film nous disaient, votre philosophe, vous ne l'aurez plus. Et on ne pouvait pas dire qu'on l'aurait. Et en fait, il y en a eu un autre, encore meilleur que le premier, et qui a pris encore plus d'importance.
Et puis, il est peu à peu, comme happé, aspiré par un détenu masqué, une sorte de mentor, oui. et celui-ci a un éclair de génie. Vous aimez bien quand la parole bute, ça vous intéresse beaucoup, vous aimez bien quand la parole monte.
Oui.
Il faut arrêter définitivement l'hypocrisie et le politiquement correct. Alors, il faut arrêter, c'est arrêtons. Arrêtons. Il faut arrêter, c'est arrêtons.
Il faut enlever,
arrêtons. Mais arrêtons, ça fait trop prospectus de manif, tu vois. Mettons un terme...
Mettons un terme, ouais, il a raison.
Mettons un terme définitivement à l'hypocrisie.
Ouais, mettons un terme, il a raison, ouais.
Mettons définitivement un terme. À l'hypocrisie, pour respecter définitivement, on l'a déjà mis.
Pour mettre nos citoyens,
attends. Attends, Didier, attends. Laisse-moi juste, j'essaie de... J'arrive pas.
Pendant que tu réfléchis...
Ah, excuse-moi, vas-y. La quête... De l'objectif principal de cette constitution, c'est le bonheur commun, c'est pas le bonheur individuel. Alors, le bonheur commun, les citoyens observent, voient les inégalités, l'individualisme et les relations de domination se produire et se reproduire à l'échelle de l'État. Que tu sois homme, femme, transgenre, roublon, etc., la constitution a le devoir de garantir le bonheur commun. C'est le bonheur commun.
Le Figaro, c'est une surprise, a fait quelques lignes sur votre film.
Oui, ça c'est une bonne surprise.
Il dit que c'est un film rafraîchissant sur le langage politique. Et la phrase que le Figaro retient, avec deux macarons sur quatre, vous savez comme on note les journalistes, c'est cette phrase-là.
Oui. Moi, c'est une phrase qui m'a beaucoup touché parce que c'est exactement ça qu'on cherchait. C'est cette réhabilitation. Cette redécouverte des mots et du prix, du poids des mots, et que ces mots-là s'incarnent dans une chair, dans une histoire, et qu'ils doivent être réhabités à chaque génération, quelque part. C'est-à-dire redécouvrir que le but de la Constitution, c'est le bonheur commun, et non pas le bonheur individuel, parce que c'est ça que ça veut dire, c'est quelque chose qu'on peut entendre dans la bouche d'un député, parfaitement, simplement on l'entendra pas dans la bouche d'un député, parce que ce sera une parole vide, une parole morte, comme elles sont à peu près toutes les paroles qui sont prononcées dans cet hémicycle. Alors que dans ce petit groupe-là, où effectivement on bute sur les mots, où la parole n'est pas si aisée, où on n'est pas dans le discours, et où on redécouvre avec une certaine fraîcheur, pour prendre l'article du Figaro, et oui, on retrouve quelque chose qui est qui n'est pas de l'ordre du cynisme. Voilà. Et pour nous, ça, c'était très important.
S'il y a quelque chose de commun, quand même, dans la démarche des ateliers constituants et la vôtre, c'est la, et celle des députés, pardon, c'est la lenteur. Vous n'êtes pas partisan des plateformes électroniques, genre plateforme Rousseau, du mouvement 5 étoiles en Italie, clic, je suis pour l'alliance avec l'extrême droite, et puis quelques mois après, clic, je suis pour l'alliance avec le centre. Tout ça, c'est fait avec des, votre travail est fait avec un duo, les Lucioles du Doc, d'éducation populaire, vous avez beaucoup ce mot-là, éducation populaire, ça veut dire lenteur, porosité.
Oui, ça s'inscrit dans une durée, dans un temps long, bien sûr, et aussi ça veut dire que les choses sont pas innées, c'est-à-dire que la démocratie, c'est un travail. Et c'est un travail commun, c'est un travail qu'on a à faire ensemble.
Alors, ils sont là avec leur projet qui prend forme, et il faut ruser, il faut trouver le chemin de l'Assemblée nationale, la commission des lois, qui sait de l'hémicycle. Alors, ça gamberge, hein, à Villeneuve-Saint-Georges.
Bah déjà, si on dit qu'on est bon lézard, on sera moins écouté, il faut le dire clairement.
Ça, ils l'ont entendu, ça fait des années qu'ils entendent. Le collectif machin, les femmes solidaires de Sarcelles, les femmes du 9-2, les femmes en lutte du 9-3. Ça fait des années qu'on en parle. Si on dit comme eux, on est juste des individus, tu vois, parce que c'est vrai, hein, pour le coup, hein, on est des individus doués de, tu vois, de conscience, on arrive comme ça de base, et après, paf! Et après parce qu'ils vont se dire ah ouais c'est vrai, après on sort de notre trou et on fait hey, ben en fait tout ça a été dit par des détenus, des lycéens de Sarcelles et des femmes solidaires en colère.
Ouais, la raison faut le dire après, parce que je pense que si on le dit avant ça pourrait nous boycotter dans un sens.
Le paf il le faut à un moment donné, parce qu'on est parti de quelque chose, on n'est pas venu comme ça
on parle pas pour rien.
Voilà. Mais voilà, il ne faut pas que ça soit non plus stigmatisant pour nous. La vie banlieusarde, il ne faut pas qu'on se mette à l'écart en fait. On est des individus comme on a deux pieds, deux bras, voilà. On est des êtres humains comme eux. Donc voilà. Mais il ne faut pas qu'on se... Mais le PAF, il le faut.
On est d'accord. Et ce n'est pas parce qu'on est issu de quartier qu'on ne peut pas avoir envie de faire plein de trucs... Tu vois, et d'y arriver à la fin. Donc c'est ça que je dis à la fin du message. Ouais. Tout dire, et à la fin, maintenant que vous nous considérez un minimum et que vous avez compris qu'on en avait dans le cerveau, maintenant on va vous dire d'où on vient.
C'est pas parce qu'on est des quartiers qu'on n'a pas la ruse. C'est parce qu'on est des quartiers qu'on a davantage de ruse, même peut-être.
Peut-être. En tout cas, ils savent, ils se font pas d'illusions. Ils savent qu'ils auront du mal à être écoutés, à être entendus, que peut-être ils y arriveront pas. Et en même temps, ils veulent y arriver. C'est important pour eux. Et cette espèce de stratégie du PAF, elle touche parce que elle paraît absurde dans un certain sens, mais en même temps, elle raconte tellement à quel point ils se sentent complètement dévalorisés, méprisés et obligés de cacher qui ils sont pour mettre en avant ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent, ce qu'ils ont à dire. C'est quand même magnifique.
Alors ils vont trouver un chemin, pas celui de la commission des lois, la présidente de la commission des lois balaye leur demande de rendez-vous du revers de la main, mais quatre députés, deux insoumis, un LR et un MoDem, acceptent
plus une communiste, voilà,
accepte d'organiser dans une salle de l'Assemblée une réunion, alors à laquelle Geoffrey, le détenu de Fleury-Mérogis, Assiba, la femme du PAF, Fanta et d'autres participent avec beaucoup de ferveur et de curiosité aussi.
Je trouve que vos témoignages sont très touchants. Ils sont pleins de vérité, de vécu, et je trouve que vous le dites en plus de façon extrêmement positive, c'est dit, et c'est bien dit, et je trouve ça vraiment très important, très intéressant. J'entends bien ce que vous dites en disant que vous avez un sentiment de mépris. Moi, je ne crois pas qu'il y ait du mépris.
C'est la réalité.
Je vous dis, moi, je ne pense pas, mais...
Je ne suis pas la seule. Vous êtes les représentants, nos représentants, d'accord ? On est là pour nous faire entendre et on veut que ça bouge. Moi, je ne vous remercie pas, vous êtes là pour nous, d'accord ? Vous êtes là pour nous. C'est vous qui vous devez nous écouter et vous devez faire en sorte que ça se passe bien pour nous. Pourquoi Fanta doit se mettre dans cet état-là pour vous dire ça ? C'est pas normal. Pourquoi quand on est au travail et qu'on prend notre pause à midi et que j'ai deux collègues qui sont... je vais le souligner, hein, qui sont noirs, et plus le troisième arabe, se font contrôler en pleine pause clope. Je suis pas sûre que ça arrive à tout le monde, ça. Là, nous, clairement, nos jeunes ont peur dans nos cités. Je sais pas si vous vous rendez compte. Nos jeunes ont peur de la police. Je suis pas sûre que ce soit le but à la base.
Quand vous dites que vous êtes la voix du peuple et que vous êtes les élus du peuple, alors en vrai, ça a peut-être été à une époque. Aujourd'hui, il y a plus. Il y a une grande scission, en fait. Il y a une vraie séparation entre le peuple et l'État. On n'écoute plus le peuple aujourd'hui. Et quand on dit. Enfin, je vous ai entendu tout à l'heure hein, dire. Voilà, nous, on est la voix du peuple. Je suis désolé, aujourd'hui, moi, pour moi, vous êtes plus la voix du peuple. Tout ça pour revenir à la fin. On a réfléchi un petit peu, du coup, ces 7 derniers mois, en fait, à se dire. Bon, bah. Enfin, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer, en fait, pour redonner un peu le pouvoir au peuple qui ne devrait pas être aux politiciens, en fait. Les politiciens, moi, à mon idée, et je pense pouvoir parler au nom de tout le monde, ça devrait être juste le porte-parole du citoyen.
Bon, j'être comme le Figaro, peut-être, qui veut ne pas voir, mais au fond, vous allez me dire que je coupe les cheveux en quatre, c'est pas une crise de la démocratie représentative, c'est une crise de la représentativité des députés.
Et c'est plus encore une crise de la représentation même. Plus encore, c'est-à-dire plus profondément, c'est-à-dire qu'il y a quelques... Évidemment, c'est une crise de la représentativité, ça tout le monde le sait, tout le monde le dit. Les députés ne représentent absolument pas la majorité, sociologiquement, de par leur profession, de par leur statut social. Le milieu, le nous auquel ils appartiennent et qui les définit, n'est absolument pas le nous du peuple, absolument pas, et nous le savons tous. Donc ça, c'est la crise de la représentativité. La crise de la représentation, c'est plus grave, elle est plus profonde. Elle est plus profonde. Et c'est là où le cinéma a un rôle à jouer. Parce que c'est la manière dont le peuple peut se représenter lui-même. Et l'est et être représenté. Être représenté, c'est aussi bien dans la littérature, dans les médias, par le cinéma, par la télévision, etc. C'est l'image. C'est vraiment ça qui est en jeu. Et on se rend compte que dans ces trois groupes, toute la souffrance la plus profonde, Elle touche à ça. Elle touche à cette image d'eux-mêmes qui est, pour eux, altérée, qui est fausse, en réalité, qui ne rend pas la dignité à laquelle ils ont droit et qu'ils savent être la leur.
Mais c'est pas une crise du politique, ils sont passionnés par le politique. C'est même leur première expérience politique que vous leur avez offerte.
Eh ben absolument, mais nous leur avons offert simplement un cadre, un dispositif pour qu'ils s'en emparent. Mais ils s'en sont emparés et effectivement, il n'y a pas de crise du politique. Il y a une crise de la représentation et de la représentativité, bien sûr. Il n'y a pas de crise du politique. Quand on redonne la parole au peuple et quand on lui redonne les outils de sa participation en tant qu'acteur dans la vie politique, bien sûr qu'il s'en empare. Et il se trouve qu'à ce moment-là, il fait preuve d'une intelligence collective absolument extraordinaire.
Claudine Bory, Patrice Chagnard, Nous, le peuple, votre nouveau film en salle. Et l'un et l'autre, vous êtes les missies de ce beau documentaire un peu partout, à travers la France. Aurore Juvenel, Charles Pélabon, Audrey Ripouille, l'équipe de la Marche de l'Histoire.